Jules Marie, le wagon 303, roman parisien. Brignolet, le garçon de caisse. C'était une cohue, mais brillante et parée merveilleusement, qui se pressait ce soir-là dans les salons de le jardin, les serres et sur la terrasse de l'hôtel de Monsieur de Terre-Noire, rue de Chanareille. Le quartier du faubourg Saint-Germain boudait M. de Terre-Noire, un riche financier dont le titre était de fraîche date et n'avait pas daigné répondre aux invitations qu'il avait lancées. Mais en revanche, dans les salons, défilaient depuis 10 heures du soir tout ce qu'il y avait de jolies femmes dans la haute finance, tout ce qu'il y avait de célébrités dans le monde des arts, de la littérature et de la politique, enfin tout ce qui, en dehors du noble faubourg renfrogné, fermé et maussade, comptait par sa valeur propre, par sa fortune ou par sa beauté. Il n'y avait pas longtemps que M. de Terre-Noire avait acheté cet hôtel, et la fête par laquelle débute notre roman était en quelque sorte une pendaison de crémaillère. Fête japonaise, portaient les cartes d'invitation, enguirlandées de lotus et de fleurs exotiques. Ce qui ne voulait pas dire, cependant, que nécessité pour les invités des deux sexes était de s'y présenter en costume du pays. La liberté la plus grande avait été laissée à l'imagination de chacun. L'habit seul était rigoureusement proscrit. Un large vélum protégeait l'arrivée. La grande cour, tapissée de massifs de fleurs aux couleurs éclatantes, tendue de bannières et de banderoles rouges et blanches, était éclairé à la lumière électrique. Dans le jardin, aux arbres, étaient suspendues des grappes flamboyantes de fruits, de flammes, pareilles à des rubis, à des émeraudes, à des topazes. Semées parmi les feuilles, des lanternes innombrables montraient les fantasmagories et leurs dessins capricieux et tourmentés. Tout le long du grand escalier d'honneur, des dragons japonais, monstrueux, semblaient éclater dans leurs écailles phosphorescentes. De temps en temps, des feux de Bengale rouges animaient de couleurs d'incendie les recoins les plus sombres et les plus éloignés, donnant alors aux couples qui passaient bizarrement vêtus l'aspect fantastique de personnages d'un autre monde. Monsieur de Terre-Noire s'était réservé pour sa femme, sa fille et ses intimes amis une petite serre arrangée en salon où les fleurs, les larges et robustes feuilles de plantes tropicales alternant avec les tapisseries orientales formaient l'effet le plus inattendu, le plus pittoresque et faisaient de cette serre un réduit frais où l'on se reposait de la fatigue de la foule ou de l'étouffante chaleur du bal. C'était là que venait de temps en temps Madame de Terre-Noire, une grande femme mince et élégante, d'une beauté dure et étrange, au visage d'un ton de bistre, clair pareil, à celui d'une arabe, aux yeux noirs, énormes, sombres et pleins d'éclairs. Elle était âgée de 35 ans. Là se trouvait encore, au moment où nous introduisons le lecteur dans ce beau retiro, Suzanne, sa fille, brune comme elle, mais plus douce, d'allure moins tragique, et le comte de Mussidan, l'associé de Terre-Noire, son ami, grand viveur, ne parvenant pas à dépenser les revenus d'une colossale fortune, d'une distinction rare, mais presque toujours attristée par quelques préoccupations secrètes, ce qui faisait dire à Terre-Noire que, sans nulle raison, Mussidan était le plus malheureux des millionnaires, et d'autres encore que nous présenterons au fur et à mesure des exigences de notre récit. Terre-Noire venait d'entrer dans la serre, riant, épanoui, heureux du bonheur des autres. « Ah ! » dit-il en apercevant sa femme Suzanne et le comte de Mussidan. Je suis content de vous trouver. Dans cette foule, ma parole, ce n'est pas chose facile de se rencontrer. Tu dois être satisfait, dit Mussidan. On a répondu à ta fête avec un empressement. Oui, oui, ce qui est mieux, c'est qu'on s'amuse. Dubray est en train de faire des ombres japonaises. Gardier et Coquelin jouent leur scénette. Réjeanne dit la bonne aventure. On soupe, on danse. C'est à n'y plus rien l'entendre. Ouf, oh que je suis donc heureux. On est bien ici. Ce n'est pas pour me reposer que je suis venu, ma foi, non. Allez, de nouvelles à vous apprendre qui vous intéressent. De nouvelles? Oui, oui. Devinez donc un peu à quoi je m'occupe depuis une heure. Oh, je vous le donne en 100 000. Suzanne, alors, alla se pendre à son bras et doucement. Mon père, ne nous fais pas languir. Eh, chère petite impatiente, on dirait que tu n'es pas loin de deviner, toi. Est-ce que par hasard, tu aurais vu causer avec Robert de Valnoise? Suzanne rougit et détourna les yeux. Mais nous ne devinerons pas, mon ami, dit Madame de Terre-Noire. Ni Monsieur de Mussidan, ni moi. Parle donc. De nouvelles, mais de quoi s'agit-il? Bien de deux mariages. Deux mariages, dit Mussidan. Oui, et à peu près conclu, par moi, ce soir même. Et Terre-Noire ajouta avec une intonation comique, « Voilà à quoi je passe mon temps quand je donne une fête japonaise. » Chose bizarre et que le banquier ne m'en remarqua point, ces paroles causèrent plus d'inquiétude que d'étonnement. Alors que Suzanne, qui devinait qu'il allait être question d'elle, rougissait de plus en plus, mais ne cherchait pas à dissimuler la joie qui éclatait dans ses yeux, Madame de Terre-Noire s'était souvent troublée, et sur son regard sombre, les paupières s'étaient abaissées lourdement. Quant à Mussidan, il avait pâli, et un pli profond creusant son front avait accentué la tristesse de son visage. Oui, deux mariages, répondit Terroir. Et l'un des deux ne surprendra pas ma femme, car il en a déjà été question entre nous. Oui, je suis presque résolu à donner ma fille, ma petite Suzanne, à Monsieur de Vaunoise. Oh, mon père, dit la jeune fille, que tu es bon. Ah, parce que je fais ce que tu veux, n'est-ce pas? Ma femme, je le sais, n'a pas l'objection, mais j'étais heureux d'en parler à Mussidan. Eh bien, qu'en penses-tu, cher ami? Est-ce que cela te contrarie? Te voilà tout ému. Tu as la figure des mauvais jours. Tu vas me reprocher, liés comme nous le sommes, de ne t'avoir pas dit mot de ce projet, de ne t'avoir point consulté. Bon, c'est un peu ta faute. Tu nous négliges beaucoup. Tu t'absentes souvent de Paris, tu voyages, tu restes loin de nous pendant des mois, et pendant ce temps-là, nous vieillissons, nous autres, et les enfants grandissent, et arrive un jour où tu n'es pas là, où ces enfants aiment. Et Mussidan, l'ami de bon conseil, est au Groenland ou à Calcutta, et ne peut dire son avis. Alors, quand il revient et qu'on lui apprend la chose, il est tout décontenancé. Pensez donc. On marie Suzanne de Terre-Noire et Mussidan, le meilleur ami de Terre-Noire, son associé, n'en est même pas averti. Et le banquier se mit à rire. Et il tendit les mains au viveur. Celui-ci répondit froidement à l'étreinte que Terre-Noire sollicitait. Sa bouche resta triste et son front ridé. Est-ce que ce mariage te déplairait par hasard? Fit le banquier. Aurais-tu quelque chose à dire contre monsieur de Vaunoise? Oh, ne le gêne pas. Il n'est pas très riche, je le sais, mais il est d'excellente famille et charmant garçon, enjoué, brave et loyal. Enfin, parle, n'en suis pas plus entiché que cela, après tout. Et si Suzanne ne l'aimait pas, il n'en serait plus question. Mais je l'aime, mon père, je l'aime. Tu vois, Messidan, je ne lui ai pas fait dire. Le comte détournait toujours les yeux. Bon, je n'ai pas d'objection, dit-il avec effort. Tu sais, je m'étais habitué à considérer Suzanne, ta fille, un peu comme mon enfant. Elle annonce aussi brusque d'un projet qui engage son avenir a bien pu m'étonner. Mais tu as pris des renseignements, sans doute, et puisque ce jeune homme te convient, puisqu'il a le bonheur d'être aimé de Suzanne, eh bien, mon ami, ce doit être chose conclue. Comme tu me dis cela, veux-tu savoir la vérité vraie? Parbleu, mais c'est à celle-là que je tiens. Mucidor eut un rire nerveux que démentait la pâleur profonde de son visage. Ben, je suis jaloux, dit-il. Jaloux de ce titre de père qui te donne le droit de disposer de la vie de Suzanne en dernier ressort et selon ton bon plaisir. Madame de Ternoir avait fait un brusque mouvement. Son brun visage d'arabe avait pris une couleur terreuse et elle mâchait à pleines dents une rose qu'elle avait arrachée à son corsage. Le banquier n'avait sans doute aucune raison de remarquer cette mimique singulière, car il répliqua avec un bon et franc sourire: Oui, je sais que tu as beaucoup d'affection pour ma fille. Ça ne t'empêche pas d'être jaloux de moi. Il se tourna vers Suzanne. Il y a beaucoup de pauvres petits abandonnés qui n'ont jamais connu ni leur père ni leur mère. Toi, mon enfant, tu ne te plaindras pas du sort. Tu as deux pères, Mussidan et moi. Dis-lui que s'il est jaloux de moi parce que je t'adore, je n'ai moi jamais été jaloux de lui parce que tu l'aimes. Pendant qu'il parlait ainsi à la jeune fille, Madame de Ternoir, qui semblait remise de son émotion, s'était penchée vers Mussidan. Mais à quoi pensez-vous donc? Dit-elle d'une voix basse, mais brève et impérieuse. Êtes-vous devenu fou? Lui ne parut pas entendre et resta songeur. Tout à coup, le banquier les laissa et, ouvrant la porte, fit signe à un autre groupe qui passait, duquel il fut suivi et avec lequel il rentra dans la serre. Il y avait deux hommes et une jeune fille. Suzanne vint à celle-ci et lui serra la main. Elles étaient aussi jolies l'une que l'autre, mais leur genre de beauté formait un frappant contraste. La nouvelle venue, Marie-Louise Margival, fille d'un des principaux employés de Terre-Noire, était de taille moyenne, frêle et d'un blond ardent. Ses grands yeux d'un bleu profond semblait appuyer le regard, et ce regard était d'une douceur infinie. Elles avaient le même âge, 18 ans. Ainsi, l'une après l'autre, elles offraient un charmant tableau. Suzanne, brune comme sa mère, avait une robe japonaise de satin rouge brodée d'or, avec une coiffure pareille à une aigrette de fée, faite de plumes de paon disposées en éventail. Dans les cheveux, une masse d'épingles d'or était piquée, semblables à des libellules. Marie-Louise, elle, était en toilette, l'emballe de bengaline rose. La redingote était décolletée à la watteau, ourlée tout autour de guirlandes de roses sans feuilles et ouverte sur une jupe courte de dentelle. Le premier des deux hommes qui venait d'entrer avec Terre Noire était Margival, un vieillard à tête caractéristique, au teint rosé, aux yeux bleus. L'autre, un jeune homme, Jean Guerrier, le caissier de la banque Terre Noire. Il était en tunique bleue sombre sur laquelle se jouaient les oiseaux chimériques au plumage éclatant au milieu d'une flore argentée. Grand, large d'épaules, le visage encadré par une barbe épaisse et courte, les cheveux ras, les yeux gris à fleur de tête, Jean Guerrier était très beau, d'une beauté robuste et saine, sans nul souci de l'être, sans nul apprêt. En entrant, il avait à son bras Marie-Louise, mais il l'avait laissée avec Suzanne pour aller saluer Madame de Terre Noire. Il le fit froidement, échangea avec elle quelques paroles de banale politesse, et la quitta aussitôt pour revenir à Terre Noire et à Margival qui causaient. Madame de Terre Noire se mordit les lèvres. Son visage sembla devenir plus dur et son regard se fit plus sombre. Elle quitta le divan bas où elle était à demi étendue. Elle avait un costume admirable de richesse et de fantaisie. Sur une jupe de dentelle d'or s'étalaient d'énormes paniers de bambou pis d'ivoire et se terminant en longues traînes. Au corsage et dans les cheveux, elle avait jeté une profusion de perles et de diamants. Des plumes de paon étaient mêlées à sa coiffure. Elle rejoignit Suzanne et Marie-Louise. Auprès des jeunes filles, elle avait l'air d'une sœur aînée. Cependant, le banquier, qui s'était interrompu tout à l'heure, reprenait la conversation où il l'avait laissée. « Oui, je vais à vous apprendre deux nouvelles, deux mariages, » reprit-il. « Et justement, les intéressés sont ici. Cela tombe bien. » Primo, mon ami et mon associé, Mucidan, et ma femme n'y faisant pas d'objection. Une fois, deux fois, c'est entendu, Suzanne sera fiancée à Monsieur de Vaunoise. Secondo, j'espère que le mariage suivra de près celui de mon caissier Jean Guerrier, avec la fille de mon vieux Murgival. Guerrier regardait avec tendresse Marie-Louise. Celle-ci était appuyée sur le bras de Suzanne, et les deux jeunes filles, toutes deux confuses et rougissantes, présentaient un spectacle charmant. Un rire sec les fit tressaillir. Madame de Terre Noire n'avait plus de mieux roses à mâcher, mais elle brisait alors une à une, dans ses doigts crispés, les lames d'ivoire de son éventail. La pâleur de son visage venait de s'accentuer tout à coup par la blancheur des lèvres dont le sang s'était retiré. Ses yeux flamboyèrent une seconde en se dirigeant sur Guerrier. Et ce fut tout. Le visage reprit son masque de dureté et d'orgueil. Margival serrait les mains du banquier. « Bon, cher ami, je ne veux pas vous faire de discours. » Je vais vous répéter ce que vous savez déjà, ce que je vous ai dit souvent, c'est que vous pourriez trouver en moi, à l'occasion, un dévouement sans limite. Ben, je ne vous demande pas tant, mon vieux Margival, dit Terre Noire, lequel tout à coup eut l'air gêné. Ben, je m'entends. À qui devrais-je le bonheur de ma fille ? C'est-à-dire de ce que j'ai de plus cher au monde, à qui, si ce n'est à vous? À qui devrais-je aussi le calme de ma vieillesse? Car, si je n'ai que 50 ans d'âge, J'ai 80 ans, tant j'ai travaillé, peiné et souffert. Et à qui, si ce n'est à vous? J'usais ma pauvre vie en recherchant chimie et invention qui devaient m'amener droit à la fortune, mais comme toujours, et qui doucement m'ont conduit à la détresse affreuse dans laquelle vous m'avez rencontré. C'est vous qui, pris de pitié, m'avez tordu la main et m'avez tiré de la misère. Ah! Toutes les calamités s'étaient abattues sur moi à la fois. J'avais perdu ma femme, j'étais ruiné. Il ne me restait plus que ma fille. Mais j'étais épuisé de veille, de souffrance, de désespoir. Je ne pouvais ni l'élever, ni la faire instruire. Heureusement, vous êtes apparu. Vous m'avez relevé, vous m'avez offert une place dans votre maison, auprès de vous. Marie-Louise a pu aussi grandir sous vos yeux. Et grâce à vos bienfaits, grâce à votre générosité ingénieuse, et toujours en éveil, l'aisance est rentrée chez nous. Ma fille n'a pas souffert. Voilà pourquoi je vous aime tant à cause d'elle. Vous, monsieur de Terre-Noire, qui m'avez forcé à vous donner le titre d'ami, oubliant votre rang et le mien. Et ne vous êtes pas arrêté là. Un jour, vous m'avez dit, « Bon vieux Margival, dans 4 ou 5 ans, Marie-Louise sera en âge d'être mariée. Je vais lui chercher dès aujourd'hui un mari. Je l'étudierai, je le formerai, je le mettrai au courant des affaires, je lui ferai sa position. » Et comme Marie-Louise menace d'être jolie, il l'aimera. Il sera riche. Pour peu qu'elle l'aime, ils seront heureux. Bien, vous avez tenu votre promesse, n'est-ce pas, Jean Guerrier? C'est vous qu'on a choisi, Jean. Et le choix ne pouvait mieux tomber, car ou je me trompe fort, ou vous réunissez les conditions que M. de Terre-Noire, jadis, s'était posées à lui-même. Voilà ce que je voulais rappeler une fois pour toutes, mon cher ami, devant les personnes qui se trouvent ici, devant vous, monsieur de Vissiban, et vous, madame, et vous, mademoiselle Suzanne, afin que vous sachiez bien que vous pouvez exiger de moi le dévouement le plus entier. Je vous dois tout. Libre à vous donc de me réclamer tout, jusqu'à la vie inclusivement, si elle vous est un jour nécessaire. Et ce qu'à Dieu ne plaise. C'est bon, Margival, disait le banquier, d'un ton brusque qu'il cherchait à rendre dégagé. Ce que j'ai fait est bien simple, tout autre lui fait à ma place. Pendant que Margival parlait, Marie-Louise avait tendu la main à Guerrier, et cette main, le jeune homme l'avait respectueusement et tendrement porté à ses lèvres. Monsieur de Terre-Noire, dit-il avec simplicité, mais à sa voix qui tremblait, on devinait son émotion, comme monsieur Margival, je vous dois tout, non seulement ce que je suis, mais ce que je vais être, ajouta-t-il en regardant Marie-Louise. Le dévouement qu'il vous offre, je vous l'offre donc à mon tour, absolu et aussi sans limite. Brave enfant, murmura le banquier. Et son regard, complaisamment, se reposait sur Suzanne, sur Marie-Louise et sur le caissier. Et il eut fallu l'observer bien attentivement pour voir avec quelle singulière tendresse ce regard s'arrêtait sur la douce figure de Marie-Louise. Quant à Madame de Terre-Noire, elle était allée de nouveau s'étendre sur le divan. Elle jouait avec une des épingles d'or détachées de sa coiffure, la même coiffure que Suzanne, et, soit hasard, soit qu'elle voulût surmonter par une douleur physique quelque terrible angoisse qui lui mordait au cœur, Elle s'était percée le bras. D'un coup brusque, et le sang coulait, faisant une traînée rose en haut du grain du gant. Suzanne et Marie-Louise étaient sorties de la serre ensemble et s'engageaient dans le jardin, causant à voix basse du bonheur qui les attendait. Terre Noire, Margival et Guerrier s'en étaient allés d'un autre côté, et Madame de Terre Noire était restée seule une minute avec le comte dans la serre. Le comte ne paraissait pas s'apercevoir de cette solitude. Il rêvait, les yeux baissés, toujours sombres. Andrea lui toucha l'épaule du bout du doigt. Il releva la tête. « Quelle mouche vous pique, » fit-elle avec dureté, « de parler comme vous l'avez fait tout à l'heure. »« Oui, ben, j'ai dit ce que je ressentais, je suis jaloux. » Elle haussa les épaules. Son regard était cruel. « Mais vous avez failli me perdre de gaieté de cœur. Je ne vous reconnaissais plus. » Un mot encore et les soupçons surgissaient à l'esprit de mon mari. Il apprenait que Suzanne n'est point sa fille. Oh, quelle révélation! Je t'ai perdue. Et pourquoi, s'il vous plaît? Oh, vous avez raison, mais pardonnez-moi. Mais est-ce bien ma faute et ne suis-je pas le seul à plaindre? Non. Je ne mentais pas en disant que je suis jaloux de Terre Noire. Jaloux à en être malade, jaloux à concevoir et à désirer une catastrophe qui me rende mon libre arbitre et la disposition de ma volonté. Oui, je suis jaloux de ne pouvoir appeler Suzanne ma fille, jaloux de ce qu'elle aime un autre que moi, qui n'est rien pour elle, si ce n'est un prête-nom. Jaloux des seins qu'elle lui donne et qu'il lui rend. Jaloux, parce qu'il songe à son bonheur et parce qu'elle lui donnera de la reconnaissance. Jaloux d'un sourire, d'un regard, d'un geste, mais jaloux de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends. De là l'humeur qu'on me reproche, de là mes disparitions fréquentes, mes longs voyages. Il y a des jours où je préfère ne plus voir Suzanne, à la voir heureuse pour lui, et d'autres jours, ou bien qu'une partie de ma fortune soit liée à la vôtre, je demande quelque malheur horrible où j'interviendrai pour vous sauver, afin d'avoir au moins le droit d'occuper une petite place dans le cœur de ma fille. « Vous souffrez, je le vois, » dit Andrea. « Vous m'aviez jamais ouvert aussi franchement votre âme. Je comprends vos tristesses, mais je ne vous plains pas. » Il tressaillit, et elle reprit avec la même dureté. « Non, non, je ne vous plains pas. Et pourquoi vous plaindrais-je? Le goût des voyages vous est subitement venu. » Vous souvenez-vous, Grégoire? Faut-il vous rappeler cette histoire d'il y a 18 ans? Auriez-vous la mémoire si courte? 18 ans après un tel drame, qu'est-ce donc dans une vie que ce drame a failli briser? Oui, je sens que j'étais coupable, Andrea. Oui, de nous deux, c'est vous qui êtes obligé de rougir devant moi. J'avais 16 ans quand je vous connus. Vous étiez séduisant et dangereux. Je ne vis pas le danger, je fus séduite. Et quand je m'aperçus que j'étais enceinte, je vous le dis. Et le lendemain, lâche, vous aviez quitté la France. Et quand vous revîntes, j'étais mariée à Monsieur de Terre Noire, qui avait demandé ma main avant votre départ, et qui ne sut jamais rien de notre secret. Vous êtes devenu son ami et son associé. Oh, j'ai souffert votre présence, parce que j'ai eu pitié de votre repentir, et parce que j'ai vu votre cœur se fendre devant la fillette qui vous a paru sur les bras de sa nourrice, et que vous seriez bien naître votre fille. Vous l'avez vu grandir, cet enfant, en gentillesse, en esprit, en grâce. Et votre supplice a été de ne pouvoir lui révéler que vous êtes son père. Je ne vous plains pas, je le répète. C'est le châtiment de votre lâcheté. Tout ce que vous dites est vrai, fit-il d'une voix étouffée. Mais je souffre. Elle le considéra silencieusement, puis, sans ajouter un mot, elle le laissa brisé et pâle.